Julie Gacon.
Mais non, je vous en prie, bonjour Jacques Munier.
J'ai quelques secondes de retard. On retrouve avec vous donc les enjeux internationaux. Au sommaire aujourd'hui, le discours de Trump, le discours sur l'état de division.
Oui, c'est toujours un moment assez délicieux, ne serait-ce qu'à observer le discours sur l'état de l'Union des présidents américains chaque année en janvier. Alors reporté à février cette fois pour cause de shutdown. Donald Trump assis cette nuit devant le Congrès devant plus de 500 élus, dont de nombreuses femmes démocrates qui portaient des vêtements blancs en hommage au centenaire du mouvement des suffragettes. Nancy Pelosi, impassible et grimaçante au-dessus de son épaule droite, expérience inédite pour le président américain que cette cohabitation avec la présidente démocrate de la Chambre des représentants élue lors des élections de mi-mandat. Bonjour Marie-Cécile Nave.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct ce matin. Vous êtes politologue, chercheuse à l'IRIS, spécialiste de politique américaine. Alors Donald Trump a-t-il pris acte cette nuit à la fois de la débâcle du Parti républicain, 40 sièges perdus à la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat, mais aussi de ce shutdown de 35 jours qui a tourné à sa défaveur? A-t-il fait acte cette nuit lors de son discours sur l'état de l'Union d'humilité?
D'humilité, non, ça ne lui ressemble pas et on ne s'y attendait pas. En revanche, je crois qu'il a pris acte de la difficulté dans laquelle il se trouve. Il n'arrive pas dans cette enceinte où il y a effectivement beaucoup de femmes. Nancy Pelosi derrière lui, qui l'a applaudi quand il a dit « il faut en finir avec les prises en otage politiques ».
C'est à peu près la seule fois où elle a réagi d'ailleurs.
Ouais. C'est un discours qui est placé sous le signe de l'appel au consensus partisan. D'une part, il a commencé presque par ça en disant qu'il allait présenter un agenda ni républicain ni démocrate, mais rassembleur sur différents sujets, la réforme des infrastructures, la baisse du prix des médicaments, la lutte contre le cancer des enfants, l'instauration d'un congé parental. Il a rappelé certains événements de la grandeur de l'Amérique et de son histoire, donc c'est un appel à l'unité nationale, mais ça c'est un classique de tous les présidents dans ce discours-là. Il a dit au début beaucoup de fois le mot « nous ». Nous avons créé beaucoup d'emplois. Le monde entier nous envie notre économie. Et nous devons travailler ensemble, républicains et démocrates, pour arriver à assurer la sécurité de notre pays. Beaucoup de personal branding aussi, hein, d'auto-satisfécite sur la politique étrangère, l'emploi, l'économie, etc. Et puis après, on a une longue diatribe, comme prévu, sur le très ultra-conservatrice, qui sont des appels du pied aux chrétiens, aux ultras, avec l'annonce du vote prochain, peut-être, ou en tout cas de mise sur l'agenda du Congrès d'une loi qui interdirait les avortements tardifs.
Alors ça, c'est une adresse à destination des ultra-conservateurs, oui, qui ont déjà de nombreuses victoires à leur actif dans plusieurs États républicains, des mesures anti-IVG qui parfois sont limites d'ailleurs par rapport aux libertés constitutionnelles.
Absolument.
Là-dessus, pas de quoi a priori rassembler les démocrates. Donc il a fait acte au départ de rassemblement, et d'ailleurs le sénateur démocrate Chuck Schumer avait ironisé avant le début du discours en disant que tous les ans, le président se réveille le jour du discours sur l'état de l'Union avec une soudaine envie d'unité, et que les 364 autres jours de l'année, le président passe son temps à diviser. Il a annoncé des mesures qui d'ores et déjà vont faire réagir les démocrates. Donc cette loi, en tout cas c'est ce texte qu'il annonce sur l'avortement, qu'est-ce qu'il dit de nouveau par rapport à ce qu'il a dit d'habitude, ce qu'il a dit jusqu'à présent?
Rien. Tous les enfants, je cite, hein, tous les enfants nés et à naître sont à l'image de Dieu. Il n'y a rien de plus beau qu'une femme qui tient un enfant dans ses bras, etc. Donc on est dans une rhétorique religieuse ultra qui est un appel à cette aile de son électorat dont il a besoin et qui est représentée beaucoup par Mike Pence,
les
évangélistes, etc. Et puis vous avez aussi un long moment sur la sécurité du pays en associant immigration à délinquance. Bon, ça non plus, c'est pas nouveau, mais ce passage est assez long en disant je vais construire le mur. le mur ou une barrière.
Ou la barrière.
Non, mais ça sera quand même un mur, parce que les immigrés illégaux nous amènent beaucoup de problèmes pour l'emploi, pour la sécurité, pour la cohésion nationale. Ce sont les immigrés qui mettent en péril la cohésion nationale dont moi je suis le garant.
Donc il n'a pas du tout pris acte de ce shutdown dont il n'est pas sorti vainqueur, plutôt fragilisé. Un shutdown de 35 jours qui est plus suspendu que réglé d'ailleurs. Mais alors, à quoi on peut s'attendre à ce qu'un blocage à nouveau de l'administration survienne dans les prochains jours, puisqu'il laisse démocrates et républicains trouver un compromis d'ici au 15 février, autrement dit après-demain?
Oui, il n'arrive pas en position de force dans ces nouvelles négociations qui, effectivement, doivent apporter une solution, comme vous le disiez, d'ici le 15 février. Moi, je crois qu'il va être vraiment tiraillé. Non seulement d'ici le 15 février, mais jusqu'aux élections de 2020, entre l'appel à sa base électorale et donc ce qu'il sait faire le mieux, qui est vraiment la stratégie du clivage, la stratégie du chaos, en termes de sur le plan socio-économique, racial, de genre. Et puis, il va quand même être obligé de faire des compromis avec les démocrates sur certains sujets, peut-être sur les infrastructures publiques, peut-être sur la baisse du prix des médicaments, c'est pas impossible. Il a besoin d'aller séduire à nouveau les plus démunis. Les plus démunis qui votent, qui majoritairement ne votent pas, mais qui votent et qui, chez lesquels il avait fait une grosse percée en 2016, et notamment dans des États swing states qui ont rebasculé du côté démocrate au moment des midterms. Donc il est en position de fragilité par rapport à cet électorat qui, y compris chez les blancs, y compris chez les conservateurs, eh bien, lui font un petit peu moins confiance qu'il y a 2 ans. Donc peut-être des compromis sur des politiques sociales qui sont un peu plus égalitaires, mais quand même ça sera assez restreint, je pense.
Les électeurs américains mettent régulièrement le système de soins, le Medicare for All, en tête de leurs préoccupations. C'est peut-être une manière aussi pour Donald Trump de déjà se positionner face aux démocrates qui se sont montrés offensifs d'ores et déjà sur cette question ces dernières semaines à la faveur de la course à l'investiture pour les primaires. Il est déjà là-dedans.
Oui, c'est un président, comme je dis souvent, qui est toujours déjà en campagne. Et là, ça y est, on entre dans une nouvelle phase de pré-campagne électorale pour 2020. Les démocrates y sont entrés avec beaucoup de candidats à l'investiture. Il faut voir aussi qui il a en face de lui, c'est-à-dire le Parti démocrate n'est pas en ordre de bataille derrière un programme consensuel, derrière un candidat ou une candidate consensuelle. Il va devoir faire un choix entre un programme plutôt centriste et un programme plutôt à gauche. Et d'ailleurs, Trump a dit pendant son discours cette nuit que le socialisme c'était très mauvais, que ça avait divisé les nations dans toute l'histoire, et que c'était pas du tout en faveur des États-Unis d'avoir un agenda socialiste.
Alors il a aussi annoncé cette mesure contre laquelle personne ne peut s'opposer, qui est d'éradiquer le sida, d'éradiquer la transmission. Voilà, aux États-Unis seulement. Il n'a pas donné de précision sur le montant du budget non plus alloué à cette cause, alors qu'il a aussi fait fermer des centres de recherche, etc. Oui, il a parlé des États-Unis.
Oui,
il n'a pas parlé d'au-delà.
Non, éradiquer le sida aux États-Unis d'ici 10 ans, effectivement, on ne sait pas comment. C'est-à-dire en coupant les budgets de la recherche, en coupant aussi les budgets publics de la santé, et en allant, enfin, ça va très loin l'administration Trump dans la défiance vis-à-vis de la recherche. C'est pas que sur le climat, c'est aussi sur toutes les questions de société où on n'a plus le droit d'écrire le mot genre, par exemple, dans les textes officiels au ministère de la Santé et ailleurs. Donc, comment est-ce que ça va être uniquement de la recherche privée non régulée? Bon, personne n'y croit. Donc, on attend de voir qu'est-ce qu'il va mettre sur la table pour alimenter cet item de l'agenda.
Bon, pour conclure, pas non plus de quoi aplanir les tensions avec les démocrates dans tout ce qui a été dit cette nuit sur la politique étrangère des États-Unis. Donald Trump maintient notamment sa décision surprise de retirer les 2000 soldats américains déployés en Syrie.
Alors, ce qu'il a dit sur la politique étrangère est très très intéressant. Il s'y est attardé un long moment parce qu'il a été très prudent dans les formules, étant donné qu'il ne doit pas trop faire peur aux républicains. Il a été très évasif sur le retrait des troupes de Syrie, d'Afghanistan, sur la question de l'OTAN. Est-ce qu'on va renégocier l'OTAN? Peut-être, peut-être pas. C'est pas le meilleur traité. Est-ce qu'on va se retirer de l'OTAN, etc. Il est très très évasif, très très prudent, en faisant vraiment du Trump comme il sait faire, en disant on va le faire ou pas. On verra. Voilà. Mais il le met sur la table, mais il est très prudent parce qu'il est en position de faiblesse sur la politique étrangère et militaire vis-à-vis des républicains.
Les grandes nations ne combattent pas dans des guerres sans fin, a-t-il dit, pour justifier le retrait de la Syrie. Et puis, cette annonce aussi, Donald Trump va rencontrer Kim Jong-un en février au Vietnam. Il avait déjà serré la main du président nord-coréen en juin dernier. Il avait qualifié la rencontre de fantastique.
Donc, on verra ce qu'il s'était rien passé après.
Et il s'était absolument rien passé. Merci beaucoup, en tout cas, Marie-Cécile Nave, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes politologue et chercheuse à l'IRIS.
Merci.
Bonne journée.